Ski Radio Safran.
Bonjour.
C'est la radio de Safran.
Bonjour. Je suis contente.
Bonjour, ici Radio Safran.
Radio Safran, bonjour. Belvé épice votre journée.
Bonjour à toutes et tous, bonjour à chacun, chacune, comme on a l'habitude de le dire. Numéro 2 de ce Radio Safran, deuxième rendez-vous, donc Radio Safran, l'émission fabriquée par l'atelier radio des patients et patientes de l'ADAPT Le Safran. Alors d'abord, salut à vous toutes et tous qui êtes là. Alors aujourd'hui, ce matin, on était 5, on en a perdu en route, donc j'espère qu'ils ne sont pas très loin, ils devraient nous rejoindre. Mais je salue déjà Michel, bonjour Michel. Alors Michel, si tu te rapproches du micro, voilà, on va t'entendre, ça va être super. Bonjour Michel.
Bonjour.
Nadia, bonjour Nadia.
Bonjour.
Alors, pourquoi ? Parce que le micro n'est pas allumé, donc c'est normal qu'on n'entende pas Nadia. Voilà.
On a voulu me couper la chic, mais bonjour, bonjour.
Non, c'est absolument impossible de te couper la chic. Et Françoise, bonjour Françoise.
Bonjour, bonjour.
Alors, tous les trois, effectivement, normalement, ils sont cinq. On accueillera Geneviève et Gérard quand ils arriveront, au fur et à mesure. Ils sont participants donc, de ce Radio Safran, cet atelier radio qui a été créé dans le cadre de la semaine particulière à l'ADAPT Le Safran pendant une semaine. C'est dans le cadre de culture et santé. Pendant une semaine, donc, les artistes investissent ce beau bâtiment. Tout au long de cette émission, eh bien, on va parler effectivement de culture avec des artistes. On va parler aussi de la vie au Safran et vous allez entendre des mots de patients et patientes, des mots du personnel, autant de choix qui ont été faits par nos participants. C'est eux qui ont fait la rédaction de ces rendez-vous. Et puis, voilà, de temps en temps, on va vous proposer un très 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 court portrait de chacun.
Oui, alors bonjour Nadia, c'est pour savoir qu'est-ce que vous intéresse dans cette émission, la technique, le savoir, voilà.
Me concernant, c'est vraiment le travail journalistique qui m'intéresse. Prendre la parole, poser des questions et pouvoir répondre à des questions. Voilà ce qui m'interpelle.
Très bien, merci.
Voilà, vous aurez de temps en temps ces petits clins d'œil des uns et des autres. On démarre cette émission en accueillant sur le plateau, donc on parlait d'artistes, on accueille Sonia Bester. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Et on accueille aussi Mbaï et Pierre. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors c'est un petit peu... Voilà, on jongle aussi avec les micros, on ne pensait pas avoir autant de monde, autant de participants et participantes, et ça c'est assez formidable. Sonia, Sonia, on te connaît puisqu'on t'a déjà, rencontré à l'occasion d'un entretien au Train Théâtre. Tu reviens au Train Théâtre, mais pas que. Et là, tu es là aussi pour nous parler d'une très belle expérience, d'un beau travail qui s'appelle « Des mots sur les mots » et que je vais te laisser nous présenter.
Eh bien, en fait, c'est un travail qui a commencé ici, en novembre 2018, où je suis venue passer une semaine en immersion totale. J'ai rencontré des patients et des soignants. Alors au début, je pensais que je rencontrerais que des patients, mais finalement, j'ai parlé avec pas mal de soignants aussi. Et l'idée, c'était, à partir de ces rencontres, d'écrire des textes librement inspirés, qui sont des petits récits, en fait, de vie, sur la thématique de la douleur physique qui engendre aussi, parfois on le sait, une souffrance morale. Et tout ce travail, évidemment, est en lien avec un spectacle qui s'appelle Comprendre, dont on avait parlé quand on s'était rencontrés.
Et qu'on peut retrouver au Train Théâtre le jeudi soir et vendredi soir, jeudi 23 voilà. Et vendredi 24.
Et juste, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, ces textes, ils ont été écrits. On a fait une première restitution en avril 2019, où là, c'était au Baume, enfin l'ancienne ADAP, parce que là, ça a déménagé. Et on a lu ces textes, et c'est vraiment les patients et les soignants, enfin certains patients et certains soignants qui les ont portés. C'était extrêmement beau, en fait, c'était extrêmement touchant. Et puis là, comme on revient au Train Théâtre jeudi et vendredi pour présenter Comprendre, on revient également ici pour lire à nouveau un de ces textes. On a fait une sélection. Et ils seront. Ces textes sont lus par Pierre et Mbaye.
D'accord. Alors, Pierre et Mbaye, peut-être vous présenter un petit peu. Karina, tu peux peut-être donner voilà, le
je
micro.
Je précise juste quelque chose, c'est qu'en fait, là, on va lire deux textes. Il y en a un qui est donc issu de mon immersion ici et un autre qui est issu du centre de détention de Valence. Voilà.
Donc effectivement, de manières de voir, de parler des mots et des mots. Alors, tous les deux, vous êtes qui? Vous êtes comédien et
oui,
d'où?
Oui, tout à fait. Bonjour.
Bonjour.
Oui, je suis Mbaye Ngom. Effectivement, oui, je suis comédien et voilà, on est là pour porter ces mots, voilà, les faire entendre encore une fois, voilà.
Et toi, Mbaye, vous êtes de Lyon, je crois, tous les deux, c'est ça?
Oui.
Oui.
Oui, on habite tous les deux à Lyon.
D'accord. Vous êtes comédien. Comment vous êtes arrivé sur cette aventure?
Alors, on est comédien, on vit à Lyon, mais on travaille très souvent partout. Moi, j'ai déjà travaillé, par exemple, à Valence, à la Comédie de Valence. Et je pense qu'on est, on est arrivé à ce projet grâce au réseau. Enfin,
grâce à votre école.
Voilà,
ils ont fait une école qui était identifiée par, que Luc Sotiras connaissait, qui est une école qui s'appelle le
GEC Théâtre Compagnonnage.
Le GEC Théâtre Compagnonnage et qui accompagne les artistes dans leur vie professionnelle. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils partent. Enfin, on a été en contact avec eux parce que ça fait partie d'une proposition qu'ils ont eue. Par cette école, en fait. On a eu leur contact, en tout cas, par cette école.
Voilà. D'accord. Et alors, comment on s'empare de ces mots? Est-ce que vous aviez déjà été confronté au handicap ou au milieu carcéral? Comment on attrape ces mots et ces mots pour les redonner? Comment on travaille là-dessus?
Je pense que ça se fait doucement, en essayant de comprendre les cheminements, les pensées, comment est-ce que ça s'agence, donc voilà. Et puis la lecture aide aussi beaucoup. On n'a pas incarné totalement, on est juste
un petit peu en décalage.
On est un petit peu derrière,
un
on
petit
a
peu
juste
à
transmettre les paroles qui ont été portées. Il n'y a pas à les incarner directement.
Mais ce qui n'est pas facile d'ailleurs, le travail de lecture, c'est quelque chose qui est pas facile parce qu'il faut trouver cette juste distance aussi.
Oui, tout à fait. Mais là, dans un cas comme ça, il faudrait vraiment beaucoup de temps de travail pour justement, si on n'a pas ces douleurs-là, de réussir à voir véritablement comment elles s'ancrent et à quel point elles modifient... Là, la lecture permet une distance qui est plus juste, je trouve, et qui est assez agréable, où on a juste à... On est juste des vecteurs qui... On évoque des figures, mais sans les porter directement et complètement.
Alors, vous allez donner ces lectures à 14h30, là, tout de suite après l'émission, et puis, enfin, l'enregistrement de l'émission, et à 15h15, donc toujours dans le centre. Et puis, elles feront l'objet aussi de la première partie de Comprendre, c'est ça, Sonia?
Tout à fait, c'est ça. Elles sont présentées là cet après-midi, et puis jeudi et vendredi en première partie du spectacle.
Alors, toi qui as Comprendre, on parlait de douleur. Déjà, ces douleurs différentes, multiples, diverses et variées, est-ce qu'elles t'ont, du coup, est-ce qu'il y a eu un cheminement? Toi, forcément, ça a fait un cheminement, j'imagine, dans ton écriture aussi.
Alors, je crois qu'au début, c'était un besoin et que c'était assez intuitif, puisque moi, j'avais une expérience personnelle autour de la douleur. Et donc... Comme j'écrivais ce texte, j'avais envie en parallèle de rencontrer des gens, et d'entendre d'autres expériences en fait autour de ça. Mais il s'est avéré que il n'y a pas un seul texte qui a été écrit sur des mots sur les mots qui ne fait pas écho en fait à comprendre. C'est-à-dire que la douleur, c'est, on le sait, c'est quelque chose de très intime, de très personnel. Et on la vit chacun de façon très différente, mais en même temps, elle a vraiment quelque chose d'universel. Et du coup, vraiment, à chaque fois, en tout cas, à chaque fois qu'un texte est écrit, à partir d'un récit de quelqu'un qui me raconte quelque chose, ça fait toujours écho au texte que moi j'ai écrit, qui est mon texte personnel. Et du coup, ça m'a beaucoup... en fait, comment dire, c'était oui, c'est comme si le cheminement il avait été hyper logique en fait, parce que bah, y a un récit d'un côté qui est inspiré de ma propre expérience, et puis après il y a une mosaïque de récits qui sont d'autres expériences et qui sont des échos en fait, et tous ces textes finalement sont des échos les uns par rapport aux autres. Je pense que quand on est face à une douleur, on est souvent très très seul, on est souvent très enfermé aussi. Bah là, c'était quelque part, ça allait plus vers le partage, en fait. Mmh. Voilà.
Alors, Nadia, Françoise, Geneviève, Michel, est-ce que vous avez des questions qui, par rapport à ce travail que Sonia a pu faire ? Françoise ?
Je lui ai posé déjà tout à l'heure.
D'accord. on l'a pas entendu parce que c'était juste avant l'enregistrement.
Donc, je lui ai demandé qu'est-ce que c'était des mots sur des mots.
Voilà.
Et elle m'a un petit peu expliqué.
Très bien.
En fait, là, il y a une faute. C'est des mots MOTS sur des mots MAUX. En fait, chaque texte qui a été écrit suite à une rencontre est comme une sorte de petit récit qui peut être parfois assez théâtral d'ailleurs. Et en fait, chaque texte, évidemment, a un titre. Mais j'ai trouvé une sorte de chapeau pour un peu nommer ce projet. Et c'est bon. C'est assez bateau, en fait, parce qu'il y a beaucoup de titres, des mots sur les mots. Mais bon, voilà.
Et ça fonctionne parfaitement bien.
Je crois qu'on comprend bien, MOTS, voilà. Mais là, il y a une erreur.
Fait.
C'est le contraire. On est hyper fort, dis donc. Enfin, je suis hyper forte.
Nadia, tu avais une question,
oui,
je crois.
Oui, je m'interroge juste, en fait, sur la difficulté. Vous l'avez dit tout à l'heure, la douleur, c'est très intime, c'est quelque chose de très personnel qu'on ne peut pas vraiment partager, puisqu'il est toujours difficile pour un autre de comprendre sa douleur. Et j'essaie d'imaginer la difficulté que ce fut de pouvoir s'approprier cette douleur pour la mettre en mots. Ça devait être très difficile, non, de s'impliquer aussi personnellement dans la vie de quelqu'un pour essayer de traduire sa douleur.
Alors, en fait, pour être très honnête, au début, je crois que ce qui m'avait aussi donné l'envie de... Par exemple, quand moi, j'étais patiente, j'avais beaucoup de difficultés à expliquer certaines douleurs, surtout les douleurs neuropathiques. Ça me rendait folle. Donc je sais qu'ici, il y a des gens qui connaissent ces douleurs et c'est très particulier. Donc déjà, c'est vrai qu'on va dire... Parce que j'écris et que l'écriture est quelque chose est un enjeu pour moi. Je me disais, je vais rencontrer des gens et ils vont pouvoir me décrire certaines douleurs et ça va être aussi intéressant de voir comment eux ils parlent de leurs douleurs. Mais après, ce dont je me suis rendu compte, c'est que alors c'est pas le cas pour tout le monde, mais quand même pas mal de gens que j'ai rencontrés, c'est un récit de vie en fait. C'est-à-dire que parler d'une douleur, mais c'est pareil pour ma propre histoire, hein, c'est parler de sa vie. C'est-à-dire que donc finalement, parfois il y a des choses assez techniques dans les textes. Ça peut arriver parce que c'est intéressant aussi. Mais en règle générale, c'est des récits qui racontent un parcours de vie et à quel moment il s'est passé quelque chose qui a fait qu'on a vécu ou on vit une expérience extrêmement douloureuse. Et je crois que les gens, mais que ce soit aussi bien les patients que les soignants, n'ont pas eu de mal à... Enfin, il y a des gens qui ont... Même quand on a du mal à en parler, on en parle quand même. Donc j'ai envie de dire que même les silences... Après, c'est des textes librement inspirés, donc c'est très réel, et en même temps, ça ne l'est pas totalement. Et c'est ça que moi, je dis toujours, c'est que la matière, elle est quand même transformée. Donc par exemple, ici, j'avais vécu une expérience très forte avec un monsieur qui était très très douloureux. C'était un sujet très très douloureux. Il était vraiment en grande douleur physique, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Oui. Il était à un moment très douloureux de sa vie. Et puis il m'avait parlé de sa femme qui venait le voir et il disait que c'était... qu'ils n'arrivaient pas tous les deux à dire les choses, mais qu'ils voyaient bien à quel point c'était dur pour elle de venir et tout. Et après, dans le texte, moi, j'ai fait parler sa femme, en fait. Voilà. C'est pour vous dire que parfois, il n'y a pas de mots qui sont dits, mais le comment lui, il en avait parlé, et les silences qu'il avait mis à me dire qu'il voyait bien qu'elle était triste quand elle venait et tout, ça a existé aussi parce que j'ai imaginé que quand elle était chez eux, elle pensait à lui, qu'il n'était pas là. Et d'ailleurs, c'était la femme d'un patient qui avait fait son rôle. Et voilà, donc pour dire que finalement, ça se transforme, mais que ça peut exister de plein de façons, en fait. Voilà.
J'imagine que cette immersion au sein des BOM, en fait, a dû vous aider à vraiment appréhender cette douleur, puisque comme vous dites, elle est traduite et par les mots, et par les gestes, et par les silences, et par des mimiques. Enfin, il y a différentes façons de l'exprimer. Chacun trouve son moyen, et chacun l'interprète ensuite par rapport à cela.
Tout à fait.
Merci de ce bel échange. Alors, je vous rappelle, donc... C'est ici au Safran, c'est ici au Safran cet après-midi et on est mercredi en début d'après-midi, on enregistre et vous retrouverez donc Sonia avec Des mots pour les mots avec Pierre et Mbaye avec en première partie de Comprendre au Train Théâtre donc jeudi 23 et vendredi 24. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir pris ce temps.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Alors, comme vous le...
Merci.
Comme vous le savez, au Safran, on ne s'ennuie pas. Tout n'est qu'activité et dès le matin, tout le monde se met à bouger dans tous les sens comme une vraie ruche. Et ça se passe dans la salle de kinésithérapie. Hier, donc, nous avons eu Gérard et Michel qui sont venus récolter quelques-uns de ces bruits.
Bonjour, là c'est Michel, là c'est pour parler à Nadia.
Oui.
Donc vous allez aller sur des souhaits maintenant?
Non, en fait je vais marcher entre les barres parallèles, oui, pour exercer un peu mes jambes et leur redonner un peu d'endurance.
Ok. Et comment le sentez-vous?
Oh, bah, écoutez, plutôt bien, hein. Moi je suis positive quant à tout ça.
Oui, mais c'est vrai que... C'est une très bonne expérience et qui fait énormément de bien.
Absolument. Et puis à force de marcher comme ça, je vais finir par pouvoir faire le tour du monde ou un marathon.
C'est ce qu'on vous souhaite. Merci.
De rien.
Voilà, oui, bonjour, hein, bonjour, Michel. Donc c'est pour vous introduire pour l'émission de radio.
D'accord,
votre,
oui.
Le prénom, c'est...
C'est Dora.
Dora, voilà. Bienvenue à Dora. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui?
Ah, aujourd'hui, eh ben, je vais mobiliser mes patients. Je vais les masser, je vais les faire travailler. Et puis, je vais aller solliciter un petit peu, qu'ils participent un petit peu des activités, ce qu'on a cette semaine. Ce n'est pas moi qu'il faut demander pour le programme. On a des gens qui s'occupent de tout ça, donc c'est affiché là.
Ah, d'accord.
On a des concerts. Je sais, jeudi, on a un concert à 17h30 qui est à voir pour les patients, pour les soignants. Et puis après, il y a plein de choses. Hein.
Voilà, ben, nous sommes très intéressés par cette émission qui vient à vous, qui vous demande un petit peu tout ce que vous allez faire. Et merci beaucoup.
Ben, de rien.
Bonne journée.
Bonne journée. Au revoir.
C'est pour l'émission de télé, là. Voilà, de radio.
Oui.
et vous poser quelques questions,
oui,
si vous le désirez. Voilà, donc sur le bien-être, voilà, de tous les soins que nous avons. Voyez,
oui.
Et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez.
Alors ici, on est d'ailleurs très très bien accueillis. Vraiment, le personnel est vraiment à l'écoute des patients.
Oui.
Chaque cas est adapté à nos moyens, à nos émotions. Voilà, moi je sors demain, donc depuis 3 mois, donc contente de sortir, mais quelque part contente d'avoir vécu cette expérience. Je ne verrai plus les choses pareilles non plus, parce que de voir le handicap, il y a pire que soi, il y a mieux que soi, et dans la douleur on est tous pareils. Le personnel, bravo à eux, quoi, parce qu'ils sont, malgré la crise du Covid qu'ils ont dû gérer et tout, voilà, non mais... Je suis vraiment très satisfaite, très contente d'avoir vu cette expérience et contente de partir aussi vers de nouvelles aventures et de nouveaux soins à domicile.
C'est vrai que les établissements ont un tout nouveau, comme on croit, ouais, et puis qu'on s'aperçoit qu'on est tous logés à la même enseigne.
Oui.
C'est extraordinaire.
Oui.
C'est...
Puis bravo aussi aux femmes de chambre, aux aides-soignantes qui là-haut font un travail fantastique, parce que franchement, des jours il y a de quoi craquer, il y a des patients qui sont vraiment pénibles, et sincèrement un grand merci à elles, un grand bravo, parce que franchement c'est un sacré métier.
C'est pénible, et malgré tout bien des choses à ces gens-là qui souffrent de la solitude pour faire tout ça.
Oui.
Merci beaucoup.
Bonne journée. Merci, pareillement, pour vous aussi. Et puis, bon reportage.
Voilà. Au revoir.
Au revoir.
Bonjour, ici BLV. Est-ce que vous consentiriez à accorder 2 minutes à une interview?
Oui, avec plaisir.
Merci. Vous êtes bénévole au sein de la... du centre.
Tout à fait, voilà, je m'appelle Hélène et je suis bénévole. Je connais bien le centre parce que je travaillais au centre Les Baumes, et maintenant je reviens en tant que bénévole.
D'accord.
Pour participer aux activités culturelles.
Ok, c'est vrai que le centre Les Baumes a fusionné avec le Safran maintenant, et ça ne fait plus qu'un. Mais j'ai pas connu le centre Les Baumes maintenant. Mais j'ai connu un petit peu le centre par ce qu'on en disait, ce que les gens qui y étaient allés. Et a priori, c'était un bon centre, quoi.
Voilà, c'était un centre de rééducation qui, voilà, sur un temps. Maintenant, c'est un nouveau centre qui s'est ouvert avec d'autres perspectives et plus importante, voilà.
Oui, d'accord. Ouais. Ok. Bon, merci. Et bonne journée. Au revoir.
Bonjour Geneviève. Je me présente, Nadia, pour Radio Safran. J'ai rejoint l'atelier parce que je suis bourkaine et c'est Radio BLV.
Super, en plus.
Donc, vous venez d'où, Geneviève?
Moi, je suis de Valence, hein.
Valence même?
Non, je suis de Montélégé, exact. J'habite Montélégé, mais je suis née à Valence.
D'accord, merci Geneviève.
Vous écoutez Radio Safran numéro 2, deuxième émission de ce Radio Safran avec la magnifique équipe de participants et participantes, de journalistes en herbe. On continue notre exploration à la fois de l'Adapte le Safran et de la semaine particulière. Nadia, Françoise, alors Gérard n'est pas là, mais Nadia et Françoise, vous êtes allées voir, vous êtes allées participer, vous êtes allées jouer avec le Théâtromaton qui nous est proposé par la Comédie de Valence dans le cadre de cette semaine particulière. Alors, vous allez nous raconter, parce que moi, je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc, Françoise, peut-être, tu peux démarrer?
Oui, c'est très bien. On se croirait dans un monde irréel. On est enfermé dans une petite cabine avec des rideaux noirs. Puis, il y a quelqu'un qui nous parle derrière un écran. Et on parle tous les deux du même texte que j'ai lu. Donc on travaille dessus, il met de la musique dessus. C'est très intéressant. Ça m'a plu beaucoup. Je recommencerai.
D'accord. Et toi, Nadia, comment tu l'as vécu? Alors, raconte-nous un petit peu.
Alors, déjà, le théâtre maton, je me suis inscrite. Mais pour dire la vérité, je ne savais pas du tout ce que c'était. Parce que le théâtre maton, c'est un peu barbare comme nom. C'est un photomaton. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me prendre en photo auditive. Je ne sais pas. Je suis arrivée dans ce petit isoloir. Je me suis dit, ils vont me demander de voter. Qu'est-ce qui se passe? Mais non. Il y avait un charmant jeune homme sur son écran de télé qui me parlait et m'expliquait du théâtre maton. Il me dit, voilà, le théâtre maton, c'est l'art de jouer avec les sons. Bon, ok, l'art de jouer avec les sons, faut m'en dire plus, c'est un peu flou pour moi. Il me dit, on va faire un voyage auditif, un voyage dans le souvenir. Rappelle-toi un son qui te plaisait, qui te berçait peut-être quand tu étais enfant, qui te faisait rêver. J'entends ce son, oui, je l'imagine bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce son? Eh bien, tu revis l'émotion de ce son, la peine, la joie, ce que tu as ressenti. Et on va prendre un texte que tu vas choisir parmi ceux que je te propose. Je suis fan d'Arthur Rimbaud. Il y avait un texte d'Arthur Rimbaud. Je prends son texte. Il me dit, ben maintenant, on va partir sur cette émotion que tu as connue. Alors, dis-moi, c'est quoi? Je lui dis, c'est l'émotion de l'épanouissement, de l'ébahissement, vraiment. Quelque chose de surprenant. Il me dit, ok, tu vas me lire ce texte de cette façon-là. J'essaie de le lire. Et on va dire que dans ma lecture, c'était assez cadencé. Il me dit, tu penses de la musique? Je dis, c'est pas de la musique, mais je pense à la musicalité de ce texte.
Un rythme.
Il me dit, qu'est-ce que tu entends derrière? Ah, je dis, j'entends du Coltrane. Du jazz un peu free, un peu avec des grosses basses. Il me dit, eh ben ok, on va le lire à la Coltrane. Bon, ben du coup j'ai pris le texte en réfléchissant un peu et j'ai repris le texte en le cadençant. Et je dirais pas que ça faisait l'effet d'une batterie, mais on entendait le Coltrane, la musicalité.
Super.
Et du coup de ce jeu, on s'est dit. Et si on partait sur d'autres émotions? On a testé d'autres complètement différentes. On a changé le texte, un texte qui était sombre, qui était sur la nuit. Et on s'est dit, ce texte-là, on va lui donner une autre image. Donc on part de ce son et on imagine une autre musique. Alors je dis, là, moi, j'entends du jazz langoureux, suave, à la Ella Fitzgerald, à la Sarah Vaughan, un truc un peu ancien, qui nous dépayse, qui nous amène faire la cour. Il me dit, d'accord, fais-moi la cour. J'ai dit, je vais faire la cour avec la nuit, tu vas voir. Et le gars, il n'est pas tombé amoureux, je ne sais pas pourquoi. Hein, même aujourd'hui encore, je me pose la question, mais il y a des gens bien à qui ça arrive. Bien, c'est la preuve. Je lui ai lu le texte à la façon Sarah Vaughan, avec une musique en arrière, où je chantais du jazz, du Dinah Kroll.
Génial.
Et on s'est régalé.
Super. Merci de ce voyage en théâtre maton. Alors, je reviens à Françoise parce que je crois que Françoise, tu as gardé ton texte, le texte que tu as lu. Est-ce que tu veux bien nous le partager, oui. Nous le lire?
Il est dans mon sac.
Ah, voilà, on va aller le chercher. Voilà, le sac n'est pas loin, donc c'est bien, ça va nous permettre de...
Si vous permettez une petite aparté.
Oui, je t'en prie, Nadia.
Parce que nous sommes au Safran, je m'en vais à ma séance de kiné.
Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadia. Et puis, on se retrouve vendredi pour la prochaine, pour la dernière émission.
Absolument.
Ça, c'est mon planning. C'est différent.
Alors, on est en train de chercher le texte, mais qui ne saurait être trop loin.
Voilà.
Voilà, Françoise a retrouvé son texte, donc le texte partagé pendant que Nadia rejoint son kiné. On va écouter Françoise qui va nous lire donc ce texte qu'elle a lu avec le théâtre maton.
On change de lunettes.
Allez, change de lunettes, oui. Ah, mais c'est entre les micros, les casques, les lunettes.
Alors je vous lis ça. Dans la nuit de Henri Michaud. Dans la nuit, je me suis unie à la nuit sans limite, à la nuit, mienne, belle, mienne, nuit, nuit de naissance, qui qui m'emplit de mon cri, de mes épis. Toi qui m'envahis, qui fais houle, houle, qui fais houle, houle tout autour, et fume, et fort, danse, et mugit, et la nuit. Nuit qui gît, nuit implacable, et sa fanfare, et sa plage en haut, sa plage partout. Sa plage boit, son poids est roi, et tout ploie sous lui, sous lui, sous plus ténu qu'un fil, sous la nuit, la nuit.
Merci beaucoup Françoise de ce partage.
C'était un peu compliqué, il y a des phrases qui étaient assez dures.
Oui.
Que je ne comprenais pas bien, que je voulais demander un peu le sens.
Oui, du coup ça vous a permis d'échanger. Tu connaissais Henri Michaud ?
Non.
Non ?
Non.
Super, donc une découverte.
Oui.
Une découverte à plein d'endroits. Et donc tu as trouvé ça, tu as trouvé ce dispositif intéressant ?
Oui, parce qu'on discute sur les mots qu'on ne comprend pas. Oui, mm-hmm. C'est intéressant, oui.
Super. Donc le Théâtromaton, eh bien c'est une création de la Comédie de Valence et qu'on va retrouver un petit peu partout et qui est présent sur toute cette semaine particulière au Safran pour donc dans le cadre de culture et santé. Bonjour, bonjour Gérard. Toi, tu fais partie de l'atelier radio ?
Oui.
Et tu as déjà fait de la radio ou pas du tout ?
Non, pas du tout.
Et alors, qu'est-ce qui t'intéresse dans l'atelier radio ?
Ben, tout ce qui est technique, toutes les branchements des fils, la technique, toute la technique, voilà.
Je vais passer la parole maintenant à Françoise pour présenter le prochain interview.
Et bien maintenant, nous allons recevoir autour de nous Lucie, tant que je ne dise pas des bêtises, psychomotricienne. Nous avons tellement des personnes qui s'occupent de nous qu'on arrive à se tromper. Lucie,
on
psychomotricienne.
On est avec Lucie qui est psychomotricienne. Bonjour Lucie.
Bonjour. Ben moi, je voudrais savoir déjà à quoi ça consiste exactement, psychomotricienne. Quel est votre rôle dans l'établissement ?
Alors moi, je fais partie de l'équipe rééducative aussi, au même titre que le kiné et l'ergo.
D'accord.
Ma particularité, c'est que je viens chercher un petit peu plus le corps, parce qu'il faut venir faire travailler à la fois le corps quand on réfléchit, quand on marche, quand... est-ce qu'on apprécie ou pas son corps ? En fait, moi, ma première question, c'est le corps et comment il interagit avec l'environnement, avec le cerveau, comment on réfléchit du coup.
Oui, c'est le corps et l'esprit.
Voilà, psycho pour la tête et moteur pour le corps. Et c'est vraiment allier les deux, comment les deux marchent ensemble et comment ils s'influencent.
Ben, c'est la volonté qui les fait marcher. Hein.
Oui, mais pas que. Il y a aussi les envies, il y a quand on est un peu moins bien, ben, les tristesses ou les...
Voilà, oui, c'est un tout.
C'est un tout, très juste.
Moi je voudrais savoir si les patients viennent volontairement vous voir, s'ils y vont facilement ou...
Quand ils connaissent, oui.
Ouais.
Sinon c'est plutôt à l'influence du médecin qui propose et du coup qui répond pas à leurs questions. Et puis aussi les autres thérapeutes, hein, les kinés, les ergos qui me connaissent.
Ouais.
Et qui du coup peuvent renvoyer leurs patients s'il y a, y a besoin.
Puis c'est suivant leurs horaires ricales.
Peut-être aussi un peu.
Oui.
Quand c'est difficile d'être prêt tôt le matin, etc. Des fois c'est un peu plus dur pour moi de voir les patients. Mais en soi, normalement, j'arrive à voir quand même...
Parce qu'il y a des personnes, je discute avec pas mal de personnes, et il y a des personnes qui sont réticentes. Quand on dit le psychologue, psychiatre, ça veut dire que voilà.
C'est vrai. Après, c'est un mot, hein, ça reste un mot, et il faut s'en détacher.
Voilà.
Mais moi, c'est pas du tout mon rôle hein, d'être psychologue. Mmh. Mais je m'intéresse quand même au bien-être de la personne, et ça passe par ses envies et puis ce qu'il pense du psycho, d'accord, effectivement. Mmh. Mais c'est pas du tout mon rôle, ouais.
Moi, j'ai une question, toutes les trois, là, puisqu'on a c'est Nawel, André et Geneviève qui font l'interview de Lucie. Est-ce que toutes les trois, vous êtes passées par les pattes de Lucie ? Est-ce que vous avez affaire à elle ?
Non.
Non.
Aucune d'entre vous ?
Non.
Non, on se connaît pas.
Mais est-ce qu'il faut aller vous voir parce qu'on en ressent le besoin, ou c'est sur les conseils du médecin ou du kiné?
Un petit peu les deux.
Un petit peu les deux. Mais est-ce que la personne malade, elle accepte ça, de dire j'en ai besoin?
Ça dépend des personnes. Ben, y en a certaines, oui, qui connaissent un petit peu ou qu'on a entendu parler et qui du coup sont d'accord et en ont peut-être besoin. Et ensemble, on essaye de voir si elle en a besoin. Si elle n'en a pas besoin, moi, je lui dis au revoir, on se dit au revoir et on se reverra dans le couloir, quoi.
Oui, mais vous ne croyez pas que les personnes malades, elles vous diront « j'en ai pas besoin ».
Ça existe.
Oui, hein.
Après, j'en vois quand même relativement peu. Je pense que j'arrive toujours à trouver un petit truc à faire, au moins au début, pour essayer de se connaître. Et puis après...
Et d'établir la confiance.
La confiance, ouais, elle est très importante, la confiance. Et en se voyant comme ça, on ne peut pas se dire « bon, ben...
ouais. »
Donc il faut aller chercher la personne, il faut se présenter, il faut proposer des exercices, voir si ça correspond ou pas, et puis en parler. Si ça correspond pas, faut le dire. La patiente ou le patient, moi aussi, si ça me convient pas, je le dis aussi. Et puis après, il faut trouver un terrain d'entente, mais globalement, on arrive à le trouver.
Une psychomotricienne, quels outils elle utilise?
C'est très vaste.
La parole, non?
Ça peut être la parole, ça peut être le souffle, la relaxation, ça peut être... là, j'ai vu qu'il y avait un théâtre qui se montait dans la salle là-bas. Ça peut être tout, en fait, tout ce qui peut mettre en mouvement mon corps, en mouvement le corps du patient, mais ça peut être... je peux aller en balnéo, hein, si j'ai envie, je peux proposer du cirque ou de la danse, si j'ai envie aussi, ou si le patient est aussi d'accord, hein, c'est toujours pareil. Mais ça peut être aussi aller marcher dehors, ça peut être...
Oui, il faut savoir donner de soi-même.
C'est ça. Et l'outil principal, ça va être moi me mettre en mouvement pour entraîner le patient avec moi. Mais ça peut être aussi des balles de jonglage, des ballons, des cerceaux. Ça peut être des jeux, des casse-têtes, des choses où on travaille un peu plus la tête.
On le fait beaucoup en ce moment, ça.
Ouais.
Les casse-têtes.
Voilà.
Avec qui?
Bah avec des animateurs.
Ouais.
Vous aimez ça, Geneviève? T'aimes ça, les casse-têtes?
Il y en a qui sont intéressants, il y en a d'autres qui le sont un peu moins.
Oui, c'est
parce
comme
que
de
bon,
tout.
On a tendance à dire que c'est enfantin.
Il y en a qui sont suffisamment compliqués pour être enfantin. Après, c'est la façon de l'amener aussi.
Voilà, hein.
Et alors, on fait quoi comme étude pour être psychomotricien?
Eh ben, c'est 3 ans dans une école de psychomotricité.
D'accord.
Avant ça, enfin à mon époque.
C'est vrai qu'elle est très très vieille, non? Vous verriez avec la coaching.
Ça a changé de façon de recruter, si
donc
je
de
dire.
Façon assez récente, puisque assez tu es récente. Très jeune.
Enfin, l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Avant, on pouvait avoir un concours privé, les écoles créer leur session, on s'inscrivait, et si on était reçu, on rentrait dans l'école 3 ans. Sauf que là, actuellement, bah, ça passe tout par dossier, Covid oblige aussi.
Ah ouais,
hein.
Ouais.
Du coup, ça passe tout par post-bac, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui. Moi, je ne suis pas passée par ni l'une ni l'autre, je suis passée carrément par médecine, donc j'ai fait une première année de médecine. J'ai été classée dans les bons chiffres, et du coup, j'ai pu rentrer dans l'école de psychomotricité.
D'accord.
Voilà, c'est les 3 façons que je connais pour rentrer dans une école de psychomote. Puis après, voilà, c'est 3 ans.
Oui, comme tout ce qu'il y a à faire. Bon.
Et comment tu as découvert ce métier?
Ben, un peu par hasard. Au départ, je voulais plutôt m'orienter vers kiné. Et en fait, je me suis rendu compte que ça marcherait peut-être pas. C'était pas ce qui me correspondait. Et puis... voilà, et en fait, en lisant un peu et en allant en stage découverte en fait avec une psychomote, je me suis retrouvée peut-être plus personnellement et humainement avec cette personne-là. Donc du coup, je me suis intéressée et j'ai sélectionné, si on peut dire, ce métier-là. Et puis c'est un métier bah, du coup de passion et on ne peut pas s'ennuyer.
Bah, merci beaucoup en tous les cas, Lucie, et merci de ta passion, parce qu'on sent que, voilà, on sent que c'est... Que tu aimes ce métier, que tu aimes. Ah,
oui.
Il faut aimer les gens avant toute chose.
Oui. Mais il faut aimer le métier aussi, parce que c'est vrai que c'est on donne de soi, donc effectivement, si on n'a pas envie d'être là,
c'est comme pour tout. Hein.
C'est comme pour tout. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Qu'est-ce qui t'a motivé ta présence ici?
Eh bien, Geneviève, je vais t'avouer la vérité. Moi, je suis en mal de rencontre. Je m'étais dit qu'ici, j'allais rencontrer le prince charmant, peut-être.
Ah bon, je crois que c'est mal barré.
C'est Gérard maintenant qui nous présente la suite.
Oui, nous allons écouter Catherine, une ancienne patiente devenue bénévole, interviewée par Nadia.
Et Catherine qui est avec nous sur le plateau, donc qui pourra peut-être nous dire deux, trois mots après.
Radio Safran, bonjour, c'est Nadia avec vous aujourd'hui. Je suis actuellement au Safran, dans les locaux, assise confortablement sur un petit fauteuil, en compagnie de Catherine, notre hôte aujourd'hui. Bonjour Catherine.
Bonjour Nadia, heureuse de te retrouver.
Effectivement, Catherine est une ancienne patiente des BOM, donc à l'époque de l'avant-Safran, dont nous reparlerons plus tard. C'était une de mes comparses lors de ma promotion, allons-nous dire. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer et discuter avec Catherine, qui va nous expliquer un petit peu plus en détail son parcours.
J'ai découvert l'ancien Safran en 2019, suite à mon accident. Je suis arrivée le 13 février 2019 et j'en suis repartie le 8 novembre 2019. Voilà, après un large temps, je vais vous expliquer en deux mots un accident qui... Je suis polytraumatisée, donc fracture ouverte du pied droit, 5 fractures du bassin, la colonne touchée aussi, et le bras, donc beaucoup de matériel. Je suis beaucoup plus lourde maintenant, beaucoup de matériel. Si je marche aujourd'hui, c'est parce que ma colonne est tenue avec 2 tiges et 11 boulons, moi j'aime à dire. Dans le bassin, eh bien, beaucoup de broches, et quand on regarde les radios, on dirait des chaînes de vélo. Il y a même un ex-patient et sa femme qui me disait « on va amener la bourrette d'huile ». Je sais plus, voilà. Donc bon, je suis arrivée ici alitée, couchée. J'ai connu après la position assise à 45 degrés pendant 45 jours. Et se remettre debout un jour d'avril. Commencer à marcher en juillet 2019, essayer de progresser, mais j'ai quitté les baumes en 2019 novembre, mais après une intervention d'urgence à nouveau de la colonne, puisque le matériel s'était enlevé, que je pouvais revenir paraplégique. Voilà, donc beaucoup, beaucoup d'étapes. Les baumes, pour moi, ça a été une résurrection, ma deuxième vie, parce que je dis qu'après cet accident, je suis dans ma nouvelle vie. Tous les professionnels à tous les niveaux, que ça soit l'hôtesse d'accueil, les kinés, les ergos, l'animation, les docteurs m'ont porté dans tous les sens du terme, dans ma problématique. Ça a été ma famille, voilà. En 2020, j'ai dû revenir parce que je pouvais marcher, mais mon pied droit était... il fallait faire une chirurgie réparatrice. Je marchais sur des fractures, donc trop douloureuses. C'était la torture. Et je suis arrivée le 8 juillet 2020, où j'ai rencontré Nadia, où justement on a partagé beaucoup de choses et cette problématique de notre handicap, de faire ce deuil, de s'en parler, d'avancer. On a fait un atelier écriture où on a partagé beaucoup de choses. Et donc la chirurgie s'est bien passée, mais après c'est un peu compliqué parce que il y a eu infection, donc réopération et 3 mois d'antibiotiques, perfusion dans le bras pendant 3 mois, 3 injections par jour. Donc voilà.
Oui, j'ai des photos à l'appui.
C'est vrai.
Oui.
Et ben aujourd'hui, en fait, je me suis reconstruite parce que ici j'ai découvert le service Comet, qui est la réinsertion, qui m'ont fait connaître le service de Porte-les-Valences, Céline Collin, où j'ai fait avec elle un bilan de reconversion professionnelle. bah, ça a permis d'avancer. Et début juillet, Séverine, la responsable de l'animation, m'a dit « Catherine, si tu veux accompagner au spectacle de Toundé avec qui on avait fait l'atelier écriture, et bah, c'est comme ça que j'ai accompagné des nouveaux patients. » Au début, je me suis dit comment je vais faire, parce que à l'heure actuelle, je reste handicapée, je marche avec une canne. Le handicap reste là, mais j'avance. Après, début juillet, j'ai su aussi par la sécurité sociale, le médecin conseille qu'il me mettait en invalidité. Et j'ai dit, il faut que je rebondisse. Et c'est comme ça que j'ai intégré le réseau des réussites, les bénévoles de l'ADAPT. Et depuis début juillet, j'interviens tous les mardis de 15h à 18h. Et ça fait du bien parce que je me rends compte que j'avais besoin de rendre ce qu'on m'avait donné, l'accompagnement que j'avais eu. Donc c'est ce que j'apporte, du moins j'espère, mais je m'en rends compte parce que les patients me le disent. C'est vrai qu'en rentrant dans les chambres en disant « Bonjour Catherine, bénévole et ex-patiente », ils se disent forcément « Ah, elle est passée par là ». Tout de suite, c'est simple et au quotidien, ça me fait du bien de voir que je peux apporter. Et puis, je retrouve aussi mon instinct et mon métier précédent d'éduc, puisque je travaillais en foyer de vie pour adultes handicapés mentaux.
Eh bien, Catherine, c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui rayonnante et toute pleine de motivation, enthousiaste pour l'avenir. Alors, dites-nous en deux mots, aujourd'hui, que pensez-vous de cette nouvelle structure, le Safran ?
Alors moi, je pensais qu'ils allaient garder le même nom, et non. Mais on s'y habitue. Moi, j'avais peur de ne pas retrouver ce côté intimiste et familial à tous les niveaux, professionnels compris, dans ce nouvel établissement. Et non, ils sont bien tous là. C'est plus grand, c'est sûr. Il faut faire des kilomètres pour aller de chambre en chambre. Mais on retrouve bien cet esprit. En tout cas, au quotidien, quand je demande à ces nouveaux patients, ils se sentent aussi bien soutenus que moi, j'ai pu l'être à l'époque. Donc, c'est un plaisir de sentir que cet esprit est là. Bien sûr, c'est plus grand, mais c'était nécessaire parce que les chambres sont plus adaptées, c'est plus neuf, ça a apporté cette modernité, un nouveau dynamisme et c'est un plus à cet esprit qu'il y avait, qui a suivi. Par contre, tous les changements ne sont pas à mettre sur le changement des baumes au Safran. Il y a le Covid qui est passé par là, qui a fait que les patients ne puissent plus manger en salle à manger, manger en chambre, que les visites soient un peu plus compliquées. Donc j'ai hâte de voir aussi, après ce Covid, quand il voudra bien nous laisser tranquille, comment ça peut encore émerger encore plus.
Merci Catherine pour ce beau témoignage, parce que nous sommes certaines que vous avez aujourd'hui donné à nos auditeurs handicapés ou en post-opération qui ont besoin de récupérer d'une manière ou d'une autre, de trouver ici, au Safran, l'équilibre et l'accompagnement dont ils ont besoin. Nous vous souhaitons en tous les cas beaucoup de courage dans votre continuité de carrière et merci d'aider toutes ces personnes handicapées qui ont besoin plus que jamais de soutien. Merci à vous Catherine.
Eh bien, merci à vous Nadia. Et je pense que je vais dire tu, comme moi, tu as pu ressentir cette force qu'ils ont tous ces professionnels pour nous accompagner et continuer d'avancer. Voilà.
Exactement, nous continuerons d'avancer très loin, Catherine. Au revoir.
Au revoir.
Alors, vous avez pu entendre ce bel échange entre Nadia et Catherine. Et comme je le disais précédemment, eh bien, Catherine, tu es avec nous sur le plateau. Peut-être que vous avez une réaction. Notre belle équipe là de journalistes en herbe. Est-ce que vous avez des questions complémentaires à poser à Catherine ?
Disons plutôt que ça aide à supporter notre handicap à nous.
Oui.
Ça vaut pour l'esprit, du moins.
Oui.
parce qu'on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup.
Oui, et qu'on n'est pas assez, on est malheureux, mais il y a plus malheureux que nous.
Oula ! À tous les niveaux.
Oui, moi, en 2019, il n'y avait pas les bénévoles. Les bénévoles sont venus à cause du Covid, parce qu'il y a eu... On pouvait moins de faire de sorties. Moi, j'allais régulièrement au cinéma, au pâté. Ils nous emmenaient à des spectacles plus régulièrement. Okay. Quand je suis arrivée à l'IT, j'ai été 4 mois dans ma chambre. J'ai pas de famille, j'avais pas trop de visites. Quand Séverine m'a parlé des bénévoles, j'ai dit, mais c'est ça qui m'a manqué à l'époque. Je viens avec cette volonté-là. Et puis parce que je suis comme ça et que j'aime les gens. Et puis que... Forcément, comme tout à l'heure, les textes, des mots sur les mots, on s'échange entre patients, même si on ne sait pas exprimer sa douleur, ça résonne chez l'autre. Oui. Et puis ce qui est important aussi ici, bien sûr, c'est les professionnels, mais c'est aussi nos temps informels entre patients, en dehors des soins.
Disons que vous êtes formidables, quoi. Parce qu'on se sent égoïste. Je me sens égoïste.
Non, faut pas.
De penser qu'à ma maladie. Il n'y a pas que moi.
Oui, mais vous voyez là, en ce moment, l'union fait la force.
Oui.
Et moi, j'ai sûrement été recentrée plus sur moi au moment où j'ai été le plus mal. Et puis, vous voyez que cet échange, on grandit, on
ça
avance.
Aide, ça aide beaucoup.
Bah, merci. Mmh. Voilà, je disais qu'ils savaient me le dire. Merci.
Il y a une chose qu'on au travers de tout de tous les échanges qu'on a pu avoir là depuis lundi, c'est que ce qui paraît important aussi, c'est l'échange. Effectivement, c'est primordial. C'est vraiment et l'échange que ce soit avec le personnel soignant, les autres patients, etc. Et pour permettre à la parole de retrouver son chemin, parce que je crois que c'est vraiment ça qui fait aussi écho et en tous les cas, moi, c'est ce que j'entends depuis lundi, c'est comment on retrouve la possibilité de sortir de soi par le biais de la parole et du coup de donner et donc de pouvoir continuer. Et la culture fait partie des leviers.
Ouais, c'est vrai que dans toutes les pathologies, quand on arrive en centre de rééducation, moi, j'avais jamais fait, encore moins les hôpitaux. On est sidéré. C'est de toute façon, c'est comme l'étape d'un deuil. Hein. On arrive là, on est cassé, on a des souffrances. Aussi, on apprend. Il y a des diagnostics qui tombent. Il faut apprendre à vivre avec et d'en parler entre nous. Voilà, ça nous soutient. Et vraiment, ici, il y a une chance. Moi, je me souviens, ça faisait 8 jours que j'étais arrivée. Il y avait un spectacle dans la salle éphémère de l'époque. Mmh. Même si j'étais douloureuse, j'ai eu du mal à rester, mais j'ai vu un spectacle et ça m'a déjà changé. Ouais, on ne va pas faire que de la rééducation, on ne va pas parler que de ça. Et c'est vrai que moi, j'étais friande de tout. C'est une chance, hein, ce partenariat... qu'il y a avec...
Ça permet des échappées, des espèces d'échappées belles comme ça, qui permettent de sortir de soi. Donc Françoise, tout à l'heure, elle nous a lu, nous a fait part de son expérience avec le théâtre au Maton. Vous trois, Michel, Geneviève, Gérard, est-ce que vous êtes allés voir, par exemple, le concert hier soir? Enfin, hier en fin d'après-midi, ou Michel, peut-être, vas-y, dis-nous.
Oui, hier soir, nous sommes allés voir le concert hier après-midi. Alors, très intéressant parce que il ne parle pas que de lui, il parle des souffrances qu'elle a eues, qu'elle a connues. Et ce partage est sensationnel. Voilà.
Super. Ça fait du bien, justement, quand on.
Ça fait du bien. Qu'une chose, c'est que. On commençait à avoir froid.
Oui, j'ai froid. Ouais.
Oui, ça effectivement, le temps n'a pas été été de la partie.
Nous n'avons pas demandé un biche.
On se rattrape au vol et on accueille donc Monsieur Blanchet, directeur de l'ADAPT France. Donc bonjour.
président de l'Adapte France.
Président de l'Adapte France. Eh ben voilà, c'est, il fallait que j'en fasse une, elle est faite.
C'est pas bien grave.
Président de l'Adapte France. Alors, Monsieur Blanchet, l'Adapte France représente combien de centres départementaux ? Est-ce que c'est d'abord que des centres départementaux ?
Alors, l'Adapte est organisée en grandes régions.
D'accord.
Donc, il y a 9 grandes régions, interrégions. Et vous avez à l'intérieur de ces régions des établissements et des services et un réseau des réussites de bénévoles. Voilà, ce qui représente à peu près 120 à 130 établissements et services.
D'accord, donc ça fait combien de personnes à peu près au total ?
Alors ça fait à peu près des personnes accueillies, il y en a à peu près 18 000 et vous avez à peu près 3 000 professionnels.
Oui, ce qui est énorme, ce qui fait quand même un vrai partenaire, enfin voilà, un vrai acteur de la santé.
Ça fait partie, important. On va dire, ça fait partie des associations qui participent très clairement à l'évolution des droits des personnes handicapées en termes de revendications, de soutien, de réponse. Puisqu'on est aussi bien sur le sanitaire, ici on est dans une activité sanitaire de soins de réadaptation, mais vous avez
aussi
qu'on appelle du médico-social et du social. Ça peut aller de l'insertion professionnelle, le travail, les services mobiles, ça peut être aussi des solutions d'habitat. Voilà, donc c'est assez vaste et c'est la spécificité de l'Adapte qui a plus de 90 ans. C'est Madame Suzanne Fouché qui a été la fondatrice de cette association. C'est tout type de handicap, c'est-à-dire qu'on n'est pas spécialisé ni sur une typologie de handicap, ni sur une typologie d'âge, ni sur une typologie, on va dire, de sujet. C'est-à-dire qu'on ne va pas être des spécialistes du sanitaire, de la rééducation ou de l'insertion professionnelle ou de la formation. On va être transversal complètement. Et donc, ici, vous êtes dans ce qu'on appellera une plateforme. Mm-hmm. Une plateforme dans laquelle, là, on est plutôt sur la partie sanitaire de la plateforme, mais vous allez avoir aussi des réponses médico-sociales et sociales. Voilà, qui sont dans le même lieu, mais avec des professionnels différents.
Vous travaillez beaucoup avec les associations ?
Alors, on travaille bien entendu avec d'autres associations.
Voilà, oui. Parce que c'est les premières qui sont porteurs de la parole à dire, quoi. C'est les premiers qui sont contactés, les associations.
Alors, c'est plutôt un collectif. Ouais. Voilà. Donc, alors, vous avez des associations qui sont plus connues que d'autres. Vous avez l'APF, par exemple,
voilà, oui,
qui est connue beaucoup sur de la revendication par rapport à tout ce qui est mobilité, par exemple.
Voilà,
hein. Vous allez avoir d'autres associations qui vont être plus spécialisées sur un type de handicap, comme le handicap psychique. Il y a des associations spécialisées là-dessus.
Il y a Alzheimer, maintenant.
Absolument, absolument. Ouais. C'est la première cause de handicap, le handicap psychique aujourd'hui.
Ouais.
Et puis, vous allez avoir des collectifs d'associations qui vont prendre un sujet et le partager et le défendre.
D'accord.
Voilà.
Alors, association, c'est vraiment le cœur, le cœur de la chose aussi. Je trouve que c'est très important de préciser que ce sont des associations parce que c'est né vraiment de bénévoles, c'est vraiment né alors de famille ou autre, et que ça reste ce mouvement associatif. Et ce qui fait aussi peut-être partie d'une... c'est une des particularités.
Alors, vous avez des associations qui sont composées que de bénévoles. Et c'est souvent des familles qui ont créé pour leurs enfants, souvent, des réponses qu'ils ne trouvaient pas ailleurs. L'Adapte, c'est pas ce cas de figure-là. L'ADAPT est une association qui fait aussi de la gestion d'établissements avec des professionnels. Donc, vous avez des mouvements dans lesquels on va mixer professionnels salariés et aussi des professionnels bénévoles. Parce que le mot professionnel va correspondre aux deux populations. Après, ce qui est important dans une association, on est une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif. Donc, l'ADAPT ne gagne pas d'argent.
D'accord.
C'est-à-dire qu'elle fait des excédents peut-être, mais elle fait des excédents pour ses activités. C'est-à-dire ici, si l'établissement de soins fait des excédents, cet excédent va servir à acheter une machine plus moderne ou à moderniser les lieux, à les réparer, etc. etc. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. L'enrichissement d'une association, c'est si elle collecte des dons, si elle fait du mécénat, si elle fait de la collecte de ressources de fonds privés, que des entreprises lui donnent de l'argent pour faire tel ou tel type d'activité. Donc c'est pareil, c'est remis dans le cadre de telle ou telle action. À un moment, on avait fait ce qu'on appelait ouverture de champ, c'était la sensibilisation à travers le cinéma. C'est aussi les campagnes que l'on peut faire de communication, comme Vivre ensemble, égo et différent, mais qui est aussi le projet associatif de l'association. Vous savez, les associations ont un projet associatif, comme les entreprises ont un projet d'entreprise. Alors, ce n'est pas la même chose, c'est différent, mais ça se rapproche quand même. C'est-à-dire, quelque part, on est là pour dire qui on est, où on veut aller et qu'est-ce qu'on défend.
Le dispositif culture et santé, on disait à quel point c'était important pour redonner la parole, pour permettre à la parole de retrouver son chemin, en tous les cas, la culture. Est-ce que le dispositif culture et santé est quelque chose dont s'empare l'ADAPT en général, ou est-ce que peut-être certains centres le travaillent un petit peu plus que d'autres?
Alors, spécifiquement, culture et santé est développé par les établissements sanitaires. C'est quelque chose qui existe dans le SSR, qu'on retrouve peut-être pas sur tous les établissements, mais qui existe dans différents établissements sanitaires. Par contre, l'accès à la culture pour les personnes, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre projet associatif. Dans le projet associatif, il y a 9 actions, et donc il y a une action sur la culture et une autre action sur le sport. Par exemple, l'accès au sport qui est important pour donner accès à la citoyenneté pour la personne. Donc, bien évidemment, la culture, c'est aussi l'accès aux études, c'est aussi l'accès pour les plus jeunes à la curiosité, à l'éducation. Voilà, absolument, complètement. Et donc, ça, vous allez avoir différentes illustrations en fonction des territoires de l'ADAPT. C'est pas une seule action, c'est une multitude d'actions qui sont déployées.
C'est
dans
un projet, en somme.
Absolument. En fonction des populations.
Voilà.
Et si on est dans le sanitaire, dans le médico-social, dans le social ou dans une plateforme, ça peut prendre des couleurs très différentes.
Voilà, ouais.
Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Alors, je sais que vous allez retrouver justement la lecture dont on parlait tout à l'heure, des mots sur les mots, avec Mbaye et Pierre, un texte de Sonia Bester. Merci beaucoup, M. Blanchet, d'avoir passé ce
temps avec nous. Très bien, merci à vous en tout cas. Excellent après-midi.
Merci.
Merci à vous.
Au revoir. Merci à et bravo à l'équipe de radio là, parce qu'on a vraiment des gens qui sont vraiment impliqués, donc merci à vous. On remercie Damien aussi de son écoute, parce que Damien nous a rejoint autour du plateau, et ça c'est bien, parce que c'est aussi ça la radio, c'est du partage. On se retrouve pour la troisième, pour le numéro 3 de Radio Safran, on se retrouvera vendredi. D'ici là, eh bien, profitez bien de tous les spectacles qui sont à voir, que ce soit à l'intérieur du Safran ou à l'extérieur, en ville. Il y a plein de possibilités, il y a plein de choses qui sont proposées. On a parlé du train de théâtre, on a parlé de la Comédie de Valence, on peut parler de luxe, de la cordonnerie, il y a vraiment plein de choses. Là, ça y est, tout le monde reprend vie, donc profitez-en pendant que c'est encore là. Merci beaucoup à toutes et tous. Au revoir.
Au revoir.
Bonjour, ici Radio Safran.
Bonjour.
C'est la radio de Safran.
Bonjour. Je suis contente.
Bonjour, ici Radio Safran.
Radio Safran, bonjour. Belle vie et pisse votre journée.